France Culture. Le journal, Julie Paco.
Bonjour à tous. Courir pour se souvenir et rendre hommage aux victimes. Plus de 1500 personnes se sont élancées ce matin dans une course pour la liberté, 10 ans après les attentats de novembre 2015 de Paris et Saint-Denis, un événement imaginé par les rescapés. Ils portent les âmes des marins perdus en mer. L'Albatros est aussi le nom de la nouvelle mission d'observation aérienne menée par l'ONG SOS Méditerranée pour repérer les situations de détresse sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. À la veille de l'ouverture de la COP30 au Brésil, nous parlerons de la préservation des forêts en France face aux incendies qui se multiplient. Notre invitée est Pauline Villain-Carlotti, docteur en géographie et spécialiste des politiques locales liées au risque d'incendie. 10 ans après les attentats terroristes de Paris et de Saint-Denis, la capitale rend hommage aux 132 victimes. Avant une grande cérémonie commémorative qui se tiendra jeudi 13 novembre, une série d'événements sont prévus toute la semaine, culturels mais aussi sportifs, avec aujourd'hui l'événement sportif et citoyen très uni qui a débuté ce matin par une course, la course de la liberté, organisée par et pour l'Association française des victimes du terrorisme, 15 kilomètres entre le Stade de France et le parvis de l'Hôtel de Ville, avec un parcours à travers les lieux des attaques. Une course que vous avez suivie, Mathilde Gariou, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Et 1700 coureurs y ont participé, Mathilde.
Oui, ils viennent d'arriver après 15 kilomètres d'un parcours très symbolique, vous l'avez dit Julie, passage devant le Bataclan, le Carillon, le Petit Cambodge. C'est émouvant de revoir tous ces endroits, nous disent Chloé et Thibault, encore un petit peu essoufflés.
C'est bizarre de se dire que là où on passe, il s'est passé un drame comme ça, mais c'est émouvant.
Puis c'est beau de voir toutes les personnes unies pour des belles valeurs comme ça et de remonter qu'il faut continuer à vivre malgré ce qui s'est passé. Quoi.
Même discours chez Constantin et un autre Thibault, les premiers arrivés, ils ont franchi la ligne main dans la main. Mais ce qui a marqué ces deux cousins endeuillés dans l'attentat du vendredi 13, c'est le soutien du public.
Forcément, quand on est passé devant le Bataclan, il y avait un peu d'émotion. Après, à côté, il y avait les gens qui nous encourageaient, donc ça contrebalance un peu la tristesse des lieux avec la joie, les encouragements, le public qui était assez présent.
Sur la ligne, Danielle attend toujours ses deux fils. Elle aussi a perdu des proches dans les attentats. Elle est membre de l'Association française des victimes du terrorisme. Ça lui fait chaud au cœur de voir tant de personnes réunies aujourd'hui autour de son histoire.
C'est assez bizarre, à la fois s'approprier ce qui s'est passé, à la fois le rejeter, quoi. Mais en tout cas, c'est dans nos têtes depuis 10 ans.
Hier, elle a entendu parler de cette attaque, déjouée contre un bar ou une salle de concert, comme en 2015, comme au Bataclan. C'est vraiment ce qui existe de pire, nous dit-elle.
C'est la force du terrorisme que d'aller s'attaquer aux endroits les plus accessibles, à des endroits de liberté, à des endroits où on est bien ensemble, à des endroits où on fait la fête, là où les innocents sont heureux.
Il faut l'avoir en tête, conclut-elle, mais surtout ne pas s'arrêter de vivre.
Mathilde Cariou en direct avec les moyens techniques de Florent Layani. Et après cette course, les commémorations se poursuivent cet après-midi dans la capitale avec une marche de l'égalité au départ de la place de la République à 14h. Marche plus solennelle avec les rescapés et familles de victimes en tête de cortège. Alors que débute donc cette semaine de commémoration, et bien le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle les préfets à renforcer les mesures de sécurité pendant toute la semaine et à une vigilance accrue autour des salles de concert et des manifestations festives. La menace terroriste demeure à un niveau très élevé, met-il en garde dans un télégramme. Ces attentats de novembre 2015 et la mémoire traumatisée, c'est le sujet du grand reportage de la rédaction diffusé vendredi et à réécouter sur franceculture.fr. Face aux 1045 morts en mer depuis le mois de janvier, l'ONG SOS Méditerranée lance sa première mission d'observation aérienne au-dessus de la mer Méditerranée. Aux côtés de son navire ambulance, l'Ocean Viking, un avion baptisé l'Albatros sera désormais chargé de repérer depuis le ciel les embarcations d'exilés à travers la Méditerranée, la route migratoire la plus meurtrière au monde, avec 67 000 morts recensés en 10 ans, d'après l'Organisation internationale des migrations, sans compter les nombreux disparus poltillés.
Ce petit avion décollera de l'île de Lampedusa, au sud de l'Italie. Des vols quasi quotidiens. Dès qu'une embarcation de fortune sera repérée, l'ONG transmettra les coordonnées GPS aux autorités compétentes, libyennes, italiennes, maltaises, en espérant une réaction.
On vient combler un vide étatique en tant qu'organisation civile.
Soizic Dupuis est directrice des opérations chez SOS Méditerranée.
On fait ce premier pas. Si le nécessaire n'est pas mis en place pour qu'un sauvetage soit déclenché, et si ça se termine par un naufrage et que ces personnes sont noyées, on pourra le documenter et on pourra le dénoncer.
Car c'est l'une des dernières armes qui nous reste, regrette Soizic Dupuis. L'ONG accuse les États côtiers d'abandonner les migrants à leur sort. Avec son avion, l'Albatros, SOS Méditerranée veut aussi mettre en lumière les exactions commises en mer, notamment par les gardes-côtes libyens.
Ils tirent sur des gens qui sont des embarcations de fortune, ils tapent sur ces gens. Les gens sautent à l'eau parce qu'ils en ont peur, se noient devant eux, ils lancent pas les gilets de sauvetage. Ça, c'est vraiment tout le temps. Donc pour nous, c'est vraiment important de maintenir en effet un témoignage.
En août dernier, ces mêmes gardes-côtes libyens ont attaqué l'Ocean Viking. Le navire de SOS Méditerranée n'a toujours pas repris la mer. L'Albatros, lui, s'apprête à décoller.
Midi 35 sur France Culture et plus d'un million de personnes évacuées aux Philippines. Alors que le super typhon Fungwong s'approche de l'archipel avec des vents de 180 à 230 km/h, des vents accompagnés de fortes pluies provoquant des inondations. Olivier Poujade, ce super typhon a déjà fait deux morts.
Des rafales à plus de 200 km/h, des crues soudaines arrachant des quartiers entiers aux berges des fleuves, plusieurs centaines de milliers de personnes contraintes de quitter leur maison dans l'urgence, un sac sur la tête, de l'eau jusqu'à la taille, des images de plus en plus récurrentes. Il y a tout juste une semaine, le passage d'un premier typhon a provoqué la mort de 224 personnes. Ce bilan, le plus meurtrier depuis le début de l'année, vient à peine d'être annoncé par les autorités que l'archipel des Philippines se retrouve de nouveau paralysé. On se sentait minuscule, comme si le vent pouvait nous balayer, raconte à l'AFP cet agriculteur philippin de l'île de Cebu, épicentre du premier typhon. Les écoles, les ports, les aéroports, de nouveau, plus rien ne fonctionne à l'approche de Fungwong, un monstre météo qui couvre l'intégralité du territoire et a contraint les secouristes à stopper leurs recherches dans les zones frappées par la première catastrophe.
Et Olivier Poujade, rédaction internationale de Radio France. Tandis qu'au Brésil, au moins 6 personnes sont mortes et 750 autres blessées dans une tornade qui a dévasté en quelques minutes une localité du sud du pays hier. Les villes de Rio de Janeiro et Sao Paulo ont relevé leur niveau d'alerte en raison de vents violents et de pluie. Au Brésil, où s'ouvre demain la COP30 à Belém, avec l'objectif de sauver l'action internationale pour le climat, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient sous l'effet du dérèglement climatique. En témoignent les canicules et incendies records enregistrés en France cet été. L'Office national des forêts a ainsi dénombré près de 15 000 départs de feu touchant 30 000 hectares de forêts et de végétation. Se pose maintenant la question de la renaissance de ces forêts. Alors pour en parler, notre invitée en studio est Pauline Villain-Carlotti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des politiques locales liées au risque d'incendie. Alors un exemple aujourd'hui, à Saussay-les-Pins, dans les Pouches-du-Rhône, eh bien une grande journée de replantation est organisée aujourd'hui pour réparer la forêt du plateau du Grand Valat. Est-ce que ce type d'action de replantation est indispensable pour régénérer les forêts ?
Alors non, il n'est absolument pas indispensable, mais on peut le comprendre et l'expliquer parce que le choc qui est perçu post-incendie, où on passe d'un état de végétation, souvent de boisement, à un espace qui est complètement lunaire, un paysage noir avec plus de végétation, c'est quelque chose qui est très traumatisant pour les riverains. Donc ce genre d'initiative, elle est compréhensible. Après, le reboisement, il n'est pas nécessaire et il est même plutôt à décourager, dans la mesure où le feu, il est destructeur de biodiversité, mais il peut être aussi créateur de biodiversité, à condition de ne pas être trop fréquent et pas trop intense sur un même espace. Il faut savoir que la recolonisation végétale, elle est lente et diffuse, donc elle prend du temps. C'est difficilement acceptable du point de vue des dynamiques paysagères pour les populations riveraines, mais au bout de 2 à 3 ans, la biodiversité d'un espace brûlé, elle est généralement supérieure à ce qu'elle était avant l'incendie.
Mais en France, on voit que les surfaces brûlées déjà se multiplient. Elles devraient même augmenter de 80% d'ici à 2050 en région méditerranéenne. Ça, c'est un chiffre donné par la mission sénatoriale de contrôle sur l'intensification et l'extension du risque incendie. On ne peut pas aider, nous, les forêts à être plus résistantes face à ces incendies ?
Alors, on peut aider les forêts à être plus résilientes face aux incendies, mais en laissant faire aussi la régénération naturelle. Parce que les plantations, qu'est-ce qu'on va amener comme plantation ? Jusqu'à présent, les exemples qui ont été menés dans la tradition de la doctrine un peu de restauration des terrains de montagne a conduit principalement à de l'enrésinement en France, mais pas seulement en France, dans d'autres pays européens, comme en Italie, comme au Portugal, remplacé ensuite aussi par des besoins, parce que derrière ce besoin d'un reboisement rapide, il y a l'idée du traumatisme, mais il y a aussi des fois des idées de rentabilité économique de restauration d'une forêt qu'on exploite, soit pour du bois d'œuvre, soit pour de la pâte à papier, notamment les plantations d'eucalyptus. Ça crée des forêts qui ne sont absolument pas résilientes parce que elles sont souvent monospécifiques, elles n'ont qu'une seule espèce, elles ont un continuum de végétation, une canopée intégrale parce qu'il n'y a pas de diversité des âges de peuplement, ils ont tous le même âge, ils ont tous la même hauteur. On va favoriser seulement certains types d'espèces, il y a peu de réflexion en termes de mixité feuillus-résineux notamment, et on n'a pas assez de diversité de strates végétales, ce qui est absolument nécessaire pour avoir des coupures de combustible pour les incendies et favoriser la résilience des forêts méditerranéennes ou autres.
Face au dérèglement climatique, vous dites qu'il faudrait un changement de philosophie dans l'accompagnement de la nature.
Oui, alors, enfin, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais c'est surtout qu'il faudrait déjà commencer à repenser notre mode d'interaction avec la nature. S'est tenu récemment, en début mi-octobre, un colloque à l'Académie du Climat organisé par un certain nombre d'associations, notamment la Coordination Libre Évolution, qui s'appelait « Foutons la paix à la nature ». C'est quelque chose qu'il va aussi falloir intégrer nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours se positionner en maître et possesseur de la nature que l'on va orienter, aménager et structurer en fonction de nos propres besoins à un moment donné. Il va falloir accepter aussi que certaines dynamiques végétales et paysagères, elles prennent du temps et qu'elles n'ont pas besoin de nous. Et que la nature n'est pas forcément à notre service, même si on a beaucoup parlé des services écosystémiques de la forêt. Sa vocation première n'est pas d'être au service de l'humain.
Merci beaucoup Pauline Villain-Carlotti. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste des politiques locales liées au risque d'incendie. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. L'Ukraine tente toujours de rétablir l'électricité et le chauffage dans plusieurs régions après des frappes massives de drones et missiles russes hier ciblant les infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver. Au moins 4 personnes ont été tuées à Dnipro dans le centre-est du pays lors de ces frappes. L'armée ukrainienne a répliqué la nuit dernière par des bombardements sur des installations énergétiques dans la région frontalière de Belgorod. 20 000 personnes sont coupées d'électricité. La justice fédérale américaine freine les déploiements de militaires dans des métropoles démocrates. Ainsi, l'envoi de militaires de la garde nationale à Portland dans l'Oregon a été bloqué temporairement par un juge fédéral vendredi. Dernière contrariété en date pour Donald Trump, qui depuis sa réélection fait appel donc à l'armée sur le sol national pour des missions de maintien de l'ordre face à des ennemis de l'intérieur, dit-il. À cela s'ajoutent les purges effectuées dans le commandement de l'armée américaine où les officiers jugés pas assez en phase avec l'administration sont peu à peu écartés des plus hautes responsabilités. Une chasse aux sorcières qui inquiète jusqu'aux vétérans de l'armée, comme vous l'avez constaté, Timur Özturk, lors d'un défilé militaire à Atlanta.
Au pied des gratte-ciel, le centre-ville d'Atlanta résonne des chants de marche. Les cadets des écoles militaires défilent aux côtés de vétérans comme Gayle Washington, très critique des changements dans l'armée depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump.
Je ne suis pas d'accord avec la politisation de l'armée, et c'est ce qui se passe. Je n'apprécie pas qu'on limoge des commandants parce qu'ils ne partagent pas les idées du président. Ça crée un dangereux précédent.
Les images de la garde nationale à Los Angeles ou encore à Washington ont mis mal à l'aise Tanya James,
Air Force veteran,
vétéran de l'armée de l'air, opposée au déploiement de la garde nationale dans les villes américaines.
Pas sur notre propre sol. Nous sommes censés nous protéger contre des nations étrangères, pas contre nos amis, contre ceux qui nous menacent.
Gayle, lui, regrette l'époque de son engagement.
Vous ne pouviez même pas dire pour qui vous votiez. Et la raison pour laquelle on vous décourageait de le faire, c'était pour que personne ne vous discrimine à cause de vos opinions personnelles.
Si un militaire en service osait parler comme lui, il serait immédiatement renvoyé de l'armée, assure Gayle.
Timur Özturk, correspondant de France Culture à Atlanta, aux États-Unis. La météo cet après-midi avec de la grisaille qui aura bien du mal à se dissiper sur la plupart des régions. Quelques ondées sont attendues de l'Alsace-Lorraine à la Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en Bretagne. Les éclaircies parviendront cependant à percer le ciel de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie ainsi que sur la région PACA, les Alpes et sur la Corse. Les températures maximales vont de 9 à 14 degrés sur un grand quart nord-ouest, 12 à 17 degrés ailleurs et jusqu'à 21 près de la Grande Bleue. C'est la fin de ce journal préparé ce midi avec Fabien Etchekopar, Alex Dang à la technique.